On n'est pas du monde, version 15 minutes, avec Antoine Malenfant et son invité.
Aujourd'hui à l'émission, James Langlois nous amène sur un quai de Charlevoix pour rencontrer le chanteur Philémon Simon.
Il me tenait sur ses genoux, sur le banc du piano blanc, et le ciel était rempli de lumière. Les murs tremblaient à genoux, j'ai prié beauté de sang, pour ne jamais être une bête, c'était hier. Ciel de tremblement, de terre qui tombe sur moi enfant. Quand j'étais petit, je le protégeais. Devenu grand, il m'a mangé. J'ai pas su fermer ses yeux de colère. Sous les pommiers blancs d'ivoire, mon père tuait les renards et coupait les glaces en deux comme Dieu le Père. Qui tombe sur moi enfin. L'amour à cet tard le matin dans la montagne mariée à un sapin. Le chien est entré dans je ne sais pas si on va me pardonner. L'amour, ciel de tremblement, de terre qui tombe sur moi enfin. L'amour, c'est un mon père me prend la main avec mes soeurs dans un nuage de fougères. J'aurais voulu dire combien je trouvais ce beau. Puis si mon heure est sur le bord de la falaise, les enfants près du piano.
On vient d'entendre Philémon Simon avec la chanson « Le chien, le coq, le cheval ». D'ailleurs, Philémon Simon, on le retrouve sur la page couverture du magazine Le Verbe cet automne, et c'est pas pour rien qu'il est là, c'est parce que James Langlois l'a rencontré sur le quai de Saint-Joseph-la-Rive.
Ouais, je pensais jamais que ça irait jusque-là. En fait, je savais qu'elle allait donner un spectacle à l'île aux coudes, là, juste en face de Saint-Joseph-de-la-Rive. Puis là, j'essaie d'avoir une entrevue avec lui. Puis moi, j'étais tout disposé à me rendre où ça lui conviendrait. Puis il m'a donné rendez-vous là, sur le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive.
Il y a le traversier qui part de Charlevoix pour aller sur l'île. Ouais.
Puis c'est Saint-Joseph-de-la-Rive, c'est dans son album Pays, c'est le lieu où il nous amène, c'est le lieu par excellence. Mm-hmm. Là, c'est le lieu où il a vécu lui-même comme enfant, d'ailleurs. Puis moi, Philémon, faut que je le dise, là, j'ai pas aimé. C'est son quatrième album. Ses autres albums, je les considérais un peu... tu sais, c'était de la musique. Lui-même le dit maintenant, là, il considère ses autres albums comme des œuvres adolescentes. Parce que, bon, c'est un peu comme un dandy. Tu sais, il parle beaucoup de ses histoires amoureuses, ses échecs amoureux. Et là, quand j'ai commencé à découvrir un peu son album « Pays », il est complètement ailleurs. Là, je me suis dit, oh, il s'est passé quelque chose. Il s'est vraiment passé quelque chose, probablement dans sa vie aussi. Et j'ai lu quelques entrevues. Et là, il parlait justement de sa quête d'identité, de ses racines. C'est très présent dans l'album, tout ça. Et ça m'a frappé beaucoup, son lien avec sa grand-mère dont il parlait. Et là, j'ai eu comme une intuition. Je me suis dit, ce gars-là a vécu une espèce de cheminement presque spirituel. Mm-hmm. Et je me suis dit, j'aimerais creuser ça davantage avec lui. C'est ce que j'ai fait.
Et t'es pas seulement allé prendre quelques notes durant l'entretien. T'as enregistré aussi cette discussion-là que vous avez eue. Et on va aller en écouter quelques extraits.
Mais est-ce que tu as l'impression que c'est généralisé qu'au Québec, la question des racines, justement, de l'identité, tout ça, est comme occulté? Ou...
Je pense que oui, mais je pense pas que nécessairement toutes les compagnies de disques auraient eu cette même allergie-là à ça. C'est une question d'individu, je pense. Mais oui, je pense que les racines sont en général... On a un bizarre de rapport aux racines, puis je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une sorte de violence qui se fait par rapport à notre propre passé. En tant que colonisé, on a toujours un peu l'impression que c'est peut-être mieux ailleurs parce que finalement, on a un boss au-dessus de nous autres, tu sais. C'est une bizarre de situation. Maintenant, on s'entend que le Québec, je veux dire, est assez autonome, puis tout ça, puis ça va bien, mais je pense que les restes de la colonisation se fait quand même sentir. C'est quelque chose qui, je pense, doit être traversé. Ça ne s'efface pas nécessairement. Ça s'enfouit peut-être, mais ça ne s'efface pas. Il faut le traverser pour arriver justement à une prise de parole réelle en tant que peuple, puis devenir un sujet aussi. Puis quand tu deviens un sujet, tu peux plus facilement sortir, tu sais, de la violence parce que tu te vois plus comme une victime, puis tu vois plus les autres comme un oppresseur, tu te vois comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Puis je pense pas qu'on ait rendu tant que ça là en tant que peuple au Québec. Ça fait que quand on regarde en arrière, on efface un peu à mesure les racines. Je pense aussi que quand il y a eu la Révolution tranquille, puis qu'on a mis le clergé de côté, et le clergé à cette époque-là, je veux dire, il a fait du bien, il a fait du mal. Puis là, je parle pas de la Bible à ce moment-là, là, je parle de l'institution. C'était quand même, à mon avis, j'étais pas là, mais j'ai l'impression que c'était aussi les gardiens de la mémoire. Beaucoup, je pense qu'ils travaillaient là-dessus. C'était eux autres qui avaient les registres, c'était eux autres qui avait souvent le savoir même. Là. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été jeté à ce moment-là. Il y a des choses qui étaient sûrement nécessaires à jeter pour qu'il y ait une évolution au Québec, mais il y a beaucoup de choses qui ont été jetées qui n'étaient pas nécessaires, comme entre autres un rapport aux racines. Là. Puis même un rapport au spirituel en tant que rapport à quelque chose qui va au-delà de soi, tu sais, qui va au-delà de l'ego d'ailleurs, tu sais, je veux dire, moi je suis pas nécessairement quelqu'un de religieux, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce qui est de la spiritualité, puis je veux dire, une des premières choses avec la religion, mettons, on peut dire catholique, c'est quand même, c'est un contact direct, continuel avec quelque chose qui nous dépasse, tu sais, puis ce rapport-là me semble important pour entrer dans le beau, pour sortir de la cage de l'ego, puis tout ça, là.
Sortir de la cage de l'ego, c'est sa grand-mère, à Philémon Simon, qui l'a beaucoup aidé à faire ce pas-là. James Langlois, c'est un peu ce qu'il raconte aussi un peu plus tard dans l'entrevue.
Oui, puis juste avant, je voulais revenir, parce qu'au début de ce segment-là, hein, il parle de sa compagnie de disques, donc ça lui a demandé beaucoup de courage, parce que tout ce travail de quête identitaire l'a amené à faire cet album auquel il ne s'attendait pas du tout. Puis sa compagnie de disques, Bon Sound, en fait, a comme reculé quand ils ont vu ça. Eux autres, ça ne les intéressait pas, puis c'est pour ça qu'on est parti sur cette question-là. Mais oui, sa grand-mère, qui est très présente dans l'album, il a même enregistré, hein, sa grand-mère. Peut-être qu'on peut aller écouter un extrait d'une chanson qu'elle rapporte, là, qu'elle chante elle-même.
Les éboulements, boum boum boum, sont amusants, boum boum boum, et c'est gaiement, boum boum boum, que l'on s'y rend, boum boum boum, au bout du quai, boum boum boum, le cœur est gai, boum boum boum.
Donc, Philémon s'est promené dans Charlevoix tout le long de la production de son disque avec son propre système d'enregistrement. Puis là, il a libéré la parole de sa grand-mère et il a libéré sa propre parole à travers ses chansons. D'ailleurs, je vais le laisser vous raconter un peu quel rôle a eu sa grand-mère et cette partie, toute cette région de Charlevoix dans sa vie, dans son identité. Ta grand-mère, c'est une Simon?
Oui, c'est une Simon.
C'est un peu pour ça que t'as pris ce nom d'artiste-là?
Oui, c'est ça. Eux autres, ils étaient 6 filles dans la famille, à l'Auberge Beau Séjour, là-bas. Puis, vu qu'ils étaient 6 filles, ben le nom s'est perdu. Fait que, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a un moment donné, il y a une dizaine d'années, j'ai eu envie de m'appeler Philémon Simon, puis je l'ai juste gardé, là, finalement. Mais je pense que là, je commence à le comprendre un peu. C'est que j'étais attiré par... J'avais envie de creuser particulièrement ces racines-là. Peut-être que je vais aller plus loin, puis je vais creuser d'autres racines après, mais pour moi... Saint-Joseph-de-la-Rive, c'est... Tu sais, quand je parlais à un rapport au plus grand, à quelque chose qui me semble transcendant, au beau, au sublime, ben je sais pas exactement où ça a commencé. Ça a peut-être commencé quand j'avais 6 mois, mais ce qui est le plus palpable pour moi, c'est mon rapport à ici, où, comme tu vois, tu sais, c'est pas mal grand, là. L'espace est assez infini. En tant qu'enfant, en tout cas, pour moi, ça faisait changement d'autres genres de paysages. Il y avait juste beaucoup qui se passait pour moi ici en tant qu'enfant. La nature est toujours changeante. Puis ma grand-mère qui avait beaucoup la foi aussi.
Ah ouais?
Oui, elle était très, très, très croyante. Ben, très, je sais pas si ça se calcule, là, mais au fond, c'était quelque chose de central dans sa vie.
Vous voyez des signes de ça concret dans sa vie?
Ben, c'était au centre de sa vie. Là. C'était pas à côté, là, c'était complètement au centre de sa vie. Elle, ça s'est beaucoup développé, je pense, d'ailleurs, dans un rapport à la nature, cette fois-là, parce que quand elle allait à l'église toute seule le matin, puis c'était la dernière de la famille, puis là, elle se promenait à travers les champs pour se rendre à l'église, puis après ça, ben, rentrer dans l'église, puis elle trouvait ça beau, puis je pense que c'était un moment où elle sentait une grande liberté à l'intérieur d'elle. C'était un moment qui lui appartenait aussi, je pense, qu'elle était pas obligée de répondre aux attentes des autres, d'aller, je sais pas trop quoi, s'occuper des poules ou je sais pas, là, mais... fait que ça y a toujours resté, puis elle nous l'a beaucoup transmis, ça. À travers l'amour, elle parlait beaucoup de l'amour, la charité, puis mais aussi l'émerveillement par rapport à la nature, puis à la beauté de la nature.
On vient d'entendre un autre extrait de cette entrevue menée par James Langlois avec l'auteur-compositeur-interprète Philémon Simon. Et le bruit qu'on entend à l'arrière, j'imagine que c'est le traversier qui s'apprête à partir.
Ben, c'est ça, là, c'est comme tout le système là, des portes là, qui sont en train de fermer. Là, puis non,
parce que rappelons-le, vous êtes sur le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive.
Exact, on entend le vent aussi.
Oui, c'est ça. Ouais. Et au loin, on aperçoit le clocher de la paroisse de Saint-Joseph. Ça fait partie vraiment de cette enfance de Philémon Simon. Il raconte dans cette entrevue les souvenirs qu'il a de la messe à Saint-Joseph.
Oui, puis il y a une chanson, là, on va en parler tout de suite après ce segment-là, mais il y a une chanson qui est la chanson de Saint-Joseph-de-la-Rive qui était composée par son oncle, il va en parler. Allons l'écouter.
Il faut s'amener avec le vent,
avec le vent, avec le vent,
un brin de foin entre les dents,
entre les dents, entre les dents,
virer trois fois, crier, chanter, parler aux gens, se mouiller les pieds, par la misère ou les boulots, on vient s'asseoir au bord de l'eau.
J'ai lu aussi que tu disais aller à la messe souvent quand tu étais plus jeune.
Ouais.
Ah, c'était avec ta grand-mère, ça?
Oui, c'était principalement avec ma grand-mère, ouais. C'est le fun à Saint-Joe parce que le curé, l'abbé Moisan...
Ouais, dont tu parles.
Ouais. Et vraiment, était vraiment gentil, était vraiment proche des gens. Puis il faisait des messes très animées, très dynamiques aussi. Fait que c'était un peu une fête quand même d'aller là. La chanson de Saint-Joseph-de-la-Rive, c'est là que je l'ai entendue quand j'étais petit.
D'ailleurs, ça m'a surpris parce que pourtant, c'est pas une chanson...
Non.
Proprement liturgique ou religieuse, mais quand même, c'est...
Bien, c'est ça. Il y a un thème de la mer dans l'église. Déjà, si vous y allez, vous allez voir. Ils ont décoré un peu la place en fonction de la mer, parce qu'ici, c'est beaucoup un village de capitaines de bateaux ou de matelots, là. De cultivateurs aussi, mais beaucoup de marins, évidemment. Puis, c'est ça qui est le fun. Je disais, c'est un rapport à la religion qui est vraiment proche du monde, puis qui est ancré dans dans quelque chose de direct, là. Je sais pas comment dire ça. Quand je suis à la messe ici, je me sens pas dépaysé, là. J'ai l'impression que c'est en continuité avec ce qui se passe autour, puis je pense que ça vaut la peine que ce soit comme ça ailleurs, ouais. Là, tu sais.
C'est comme très inculturé à la situation locale, à l'esprit local, ouais. Des gens, finalement.
Puis l'abbé Moisan, il était très dynamique, fait qu'il laissait le monde aussi être bien dynamique dans l'église. Fait que quand on chantait ces chansons-là, le monde était de bonne humeur, puis ça chantait fort, puis je pense qu'en tant qu'enfant, je trouvais ça bien le fun.
Philémon Simon qui nous parle de ses expériences à la messe à Saint-Joseph-de-la-Rive. La messe, évidemment, fait partie de ses souvenirs, James Langlois, mais il te raconte aussi tout son rapport à la Bible et au Christ lui-même.
J'ai manqué le lancement de son album Pays à Québec qui avait lieu au Maelstrom, au café Le Maelstrom. Et la journaliste qui était là rapportait dans son article qu'il faisait des allusions à Jésus puis à la Bible dans son spectacle. Donc là, je l'ai questionné là-dessus.
Puis là, on parle beaucoup de l'institution, de la religion catholique, mais en fait, sur ton album, tu évoques le nom de Jésus. Il y a une pièce qui s'appelle Jésus rouge, Jésus noir, ouais. C'est ça? Puis, paraît-il que tu fais des bonnes blagues sur Jésus aussi, là, que tu en as fait au Maelstrom, j'ai manqué ça. Mais en tout cas...
C'est pas des blagues, mais c'est comme j'essaie de défolkloriser la Bible, parce que moi, je trouve ça le fun à lire, la Bible. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont dites là-dedans. Fait que je défolklorise un peu au sens où je trouve que souvent, elle nous est enseignée d'une façon très dogmatique. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai apprise beaucoup à l'école quand j'étais petit. Puis je trouve que ça vaut la peine de relire des bouts. Premièrement, pour se connaître, pour se rappeler un peu, tu sais, ce qui nous a été dit à une certaine époque. Là, je sais pas si ça tient encore pour la nouvelle génération. Moi, je suis de la génération qui a eu des cours de catéchèse.
Moi, je suis la dernière.
Ouais.
Aujourd'hui.
C'est ça, il y en a plus. Mais moi, j'ai trouvé ça le fun. J'ai lu ça beaucoup à l'université, la Bible, au cégep aussi. Puis, mettons, moi, je dans mes shows, je parle de l'Évangile selon saint Matthieu parce qu'il y a deux tounes qui sont plus inspirées de ça. Puis,
Gethsémani, l'autre.
Ouais, c'est ouais. Ça. Je trouve que, par exemple, ce moment-là où Jésus demande à ses amis de l'aider, puis que ses amis l'aident pas, qu'il demande à Dieu une réponse, puis que Dieu il envoie pas de réponse, puis que tout d'un coup, il comprend qu'il a sait sa mission, il sait ce qu'il a à faire. C'est déjà à l'intérieur de lui. Il y a juste à... Maintenant, il faut qu'il le fasse. C'est épeurant, mais il faut qu'il le fasse. Puis il va le faire, puis il va le faire seul, d'ailleurs. Je trouve que, en tant qu'humain, par rapport à juste notre rapport à la mort, tu sais, on est tous quand même aux prises avec ça. Mais par rapport aussi à notre vie, c'est-à-dire faire des choses, créer, je veux dire, là-dessus, il y a quelque chose que je trouve de super intéressant qui est très simplement dit dans la Bible. Puis... Généralement, c'est ça que j'essaie de défolkloriser un peu. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je trouve ça drôle de dire ça parce que...
Présenter le Christ, l'Évangile, comme sous une réalité peut-être plus humaine, en fait, plus incarnée.
Ouais, puis je le trouve très incarné, ce bout-là, par contre, de Gethsémani. Sauf que c'est rare que le monde le lise.
Ouais.
Fait que... Mais quand tu le lis, je trouve ça... C'est ça, je trouve que c'est très incarné. Mais c'est ça, j'ai envie de... Ben, tu sais, à la rigueur, comme un sermon, là. C'est ça, un sermon, pour que, si je comprends bien, c'est comme une lecture, là, un travail d'analyse. Ouais. C'est une analyse. Puis moi, j'essaie de faire une analyse de tout ça, mais pour le compter en histoire, puis pour dire ce que je trouve que moi, ça dit, ça. Puis dans le cas de la Bible, des fois, je trouve que ça vaut la peine. Premièrement, il y a des passages beaucoup plus difficiles à interpréter que celui-là. Je trouve que lui, il y a déjà quelque chose de très direct, là, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant. Moi, j'étudie les livres à l'école, là, j'étudie les classiques, puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir ce que ces livres-là ont à dire, mais pour le faire, il faut le lire, puis se demander c'est quoi que ça veut dire dans ma vie. Je sais pas, en tout cas, je me répète un peu, là, mais je trouve ça important de... lire la Bible, parler de la Bible, mais pas de voir ça comme un... Je sais pas, comme un objet distant, là. C'est quelque chose de très direct, au fond, là. Ça parle de choses très directes, là. Il faut juste, des fois, passer l'étape de... du fait que c'est des vieux textes, puis que des fois, il y a un style quelconque, là, qui est peut-être pas adapté à aujourd'hui. Mais une fois que tu es habitué à ça, je veux dire, ça parle d'aujourd'hui, là, finalement, là. Fait que l'Ancien, comme le Nouveau Testament, là, c'est Saint Paul aussi, je veux dire, c'est très actuel, là, ce qu'il dit, là. Fait que, tu sais, faut juste s'adapter au style, là. Mais moi, le style, de toute façon, pour le reste, je le trouve beau, mais je veux dire, chacun ses goûts. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, d'arrêter de voir ça comme une affaire compliquée, là. C'est un livre. C'est direct, il faut juste le lire.
C'est beau ce qu'il dit, Philémon Simon, sur la Bible. Il évoque un peu, le Christ vit bien des moments seul. Lui-même a un rapport à Jésus qui est assez intime, on pourrait dire, James Langlois.
Ben, c'est drôle, puis vous allez voir un peu à la fin du prochain segment et le dernier, que je fais le rapport entre la pousse de ses cheveux et de sa barbe, puis son amour pour Jésus, parce que Philémon avant avait les cheveux courts, avait pas de barbe, puis là tout d'un coup son dernier album, les cheveux longs, tout ça, ce qui peut avoir l'air étrange, là, mais lui-même le confirme, là, je pense que le fait de se rapprocher du Christ lui a donné le goût d'y ressembler.
C'est qui, personnellement, Jésus pour toi?
Jésus? Ben là, personnellement, ben c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Fait que c'est une partie de moi, tu sais. C'est dur à dire. Je m'en suis juste toujours fait parler. Puis à partir du moment où j'ai arrêté de m'en faire parler, je m'en étais tellement fait parler que ça m'a suivi. J'essaie surtout, comme je dis dans mes shows maintenant, je pense que le bout qui m'intéresse le plus de Jésus, c'est son rapport à son écoute à ce qui venait de lui, ce qu'il avait en... Puis là, ben lui, ça venait de Dieu, là, mais ce qu'il a envie d'apporter, le travail qu'il fait pour quelque chose de plus grand. Tu sais, je veux dire, il se sacrifie pour laver les péchés du monde. Et donc, il a pris sa vie pour apporter quelque chose qui était plus grand que lui, puis il est allé jusqu'au bout. Pour moi, ça, je trouve ça très, très inspirant. Comme je le dis, je pense... C'est difficile pour moi, mettons, mais je pense pas que je crois en Dieu. C'est difficile pour moi de dire ça parce que j'ai tellement grandi là-dedans qu'on dirait que ça fait partie de moi, là. Mais en ce moment, ce que je trouve le plus inspirant, moi, c'est de lire l'histoire de Jésus puis de voir ça comme une sorte d'exemple. Parce que c'est plus comme ça que je... C'est plus comme... C'est ça qui m'aide à faire ma vie plus qu'autre chose, disons. C'est ça qui va me pousser à créer. Jésus, il s'est pas assis, là. Il est allé, puis il est allé créer, justement. Il a travaillé, il a pas niaisé. Ça, je trouve ça inspirant. Moi.
C'est pour ça que tu t'es laissé pousser les cheveux et la barbe.
Oui, ben j'ai fini par... On m'a donné un petit air de Jésus, ouais.
À force d'y passer, ça s'autoproduit, là.
Ben, je me suis rendu compte que, je sais pas jusqu'où ça va, mais que, oui, je me suis un peu projeté dans Jésus souvent, puis je pense que c'est quelque chose, d'ailleurs, dont c'est intéressant de sortir, là, parce que je pense pas qu'il faut... je pense que le complexe de Jésus, là, c'est pas la meilleure chose à garder dans sa vie, là. C'est beau d'être inspiré par Jésus, mais de se croire soi-même Jésus, c'est de l'imagination.
Il y en a
là.
Beaucoup à Robert à,
oui, c'est
à
ça.
La santé mentale. De...
Généralement, ça s'associe, ouais, avec des psychoses qui tournent mal, là. Mais ouais, fait que c'est ce que j'ai à dire là-dessus.
Qu'on vient d'entendre, c'est la voix de Philémon Simon, interviewée par James Langlois sur le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive. Merci beaucoup, James, de nous avoir rapporté ces très belles paroles de Philémon.
Tout le plaisir est pour moi, puis vous irez lire l'article papier. Il y a d'autres approches qu'on n'a pas abordées dans l'entrevue audio aujourd'hui.
Tout ça sur letraitdunionverbe.com.
C'était On n'est pas du monde en version 15 minutes avec Antoine Malenfant et son invité.